Merci bien. Oui, alors moi, je vais zoomer sur les données. Données, puisque c'est une notion finalement qui est commune au secteur privé et au secteur public, et un sujet de réforme extrêmement prolifique ces dernières années, autant en droit public qu'en droit privé. Il y a des points qui rapprochent l'approche privée ou l'approche publique, et puis nous verrons qu'il y a aussi des points qui les séparent. Tout d'abord, c'est la difficulté à définir ce qu'est une donnée, puisque, après tout, on pourrait tout appréhender sous le prisme de la donnée, et surtout parce que la donnée a plusieurs facettes. Ça peut être compris comme un actif, c'est-à-dire quelque chose qui est produit par des processus techniques réutilisables et qui fait l'objet d'échanges. Certains l'analysent aussi sous l'angle de l'infrastructure en disant que c'est finalement l'accès aux données devient essentiel et donc d'un point de vue du droit de la concurrence, on pense aux infrastructures essentielles et à la nécessité pour accéder à un marché ou pour développer un service d'intérêt public, eh bien, il faut avoir accès à cela. Donc on voit que la donnée a plusieurs facettes, donc il est difficile de l'appréhender d'un coup. Et puis la donnée, eh bien, fait l'objet de qualifications. C'est bien qu'on va décliner cette notion en différentes notions et on va distinguer, par exemple, pour ne reprendre que les plus connues, eh bien, les données publiques, des données à caractère personnel ou des données à caractère non personnel. Alors pour rappel, les données publiques, eh bien, on y range les données détenues ou élaborées par les établissements ou organismes publics, et puis les données personnelles, eh bien, pour présenter une définition simple. Et pour rappel, ce sont toutes les données qui vont permettre d'identifier une personne. Enfin, les données non personnelles vont être définies en creux des données personnelles, c'est-à-dire que ce sont toutes les autres données. Ces qualifications, à chaque qualification, eh bien, on va adosser un régime juridique particulier, un régime spécial. Alors pour les données publiques, eh bien, on a eu une directive en 2003 et puis qui a été modifiée en 2013 qui va poser les règles de l'accès et de la réutilisation des données publiques. On a des lois de transposition en France, elles sont récentes. Il y a une loi de 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dit la loi Walter, et puis la loi pour une République numérique de 2016 aussi, qui appréhende cette question. S'agissant des données à caractère personnel, là aussi, l'actualité législative est extrêmement prolifique. Il y a le règlement général des données à caractère personnel qui a été évoqué tout à l'heure, qui a été adopté en 2016 et mis en œuvre en 2018. Il y a aussi une directive sur le volet pénal qui a été adopté dans les mêmes conditions. La loi de 78 a été réformée en juin 2018. Il y a une ordonnance qui a été ensuite adoptée. Puis là vient de sortir un décret en 2019. Donc vous voyez, c'est une activité vraiment à la fois dense et récente. Ce qu'on peut relever, c'est tout d'abord une initiative française assez originale qui a été d'appréhender finalement cette question de manière transversale à travers sa loi pour une République numérique, puisque cette loi va aborder les données, quelle que soit leur qualification de public et de privé, du moins avec cette ambition finalement d'aborder toutes les questions qui touchent le digital. Et cette démarche qu'on peut critiquer parce qu'on en vient à une loi un peu fourre-tout, on y voit aborder une multitude de questions, si bien qu'on a du mal à lui donner sens. Et puis ces éléments vont être dispersés dans différents codes. Cette démarche présente à l'inverse un intérêt puisqu'elle va permettre finalement de traiter la donnée sous ses de façon transversale et donc d'appréhender cette notion à travers les questions qui se posent, quelle que soit la qualification retenue. Et parmi les questions qui se posent, eh bien, il y a des questions qui ont trait à la concurrence, d'autres à l'appropriation, est-ce que c'est un objet de propriété ou pas, qui ont trait à l'accès, à la circulation, à la portabilité, au format, etc. Et là, eh bien, on conçoit que finalement, c'est les réponses peuvent être convergentes et partant de cette convergence, eh bien, on va aussi relever ce qui les différencie. Mais lorsque l'on traite en silo la question des données en fonction de leur qualification, le risque, c'est finalement pour chaque type de données, eh bien, on développe des notions, on développe des concepts qui sont finalement cousins des concepts qui sont développés s'agissant d'autres données qualifiées autrement, mais cela rend difficile finalement la compréhension des règles et nécessite après coup un nettoyage afin de faire ressortir les grands concepts ou les grandes notions. Alors pour se rendre compte de cela, eh bien j'ai pris deux exemples. Le premier concerne le libre accès des données, puis le second, la portabilité. Ce sont deux questions qui vont se poser pour les données, quelle que soit leur qualification, et on verra que les réponses ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc il y a parfois convergence des régimes, parfois juxtaposition des régimes, et puis, eh bien, on peut poursuivre pour s'apercevoir quelle incidence cela a. Alors, s'agissant du libre accès des données, je parlais de la loi pour une république numérique qui avait abordé ces questions de façon transversale. Eh bien, cette loi contient un titre intitulé « La circulation des données et du savoir ». Et dans ce titre, il va être traité aussi bien les données privées que les données publiques. Alors, s'agissant des données publiques, par exemple, il y a un article, l'article 11 de la loi pour une république numérique, qui prévoit que l'administration ne peut pas s'opposer à l'extraction des données, des bases de données qu'elle a produites. Alors, cette disposition, elle est intéressante parce que les données contenues dans une base de données, vous savez, font l'objet finalement d'une forme de réservation à travers le droit sui generis, qui est un droit de propriété intellectuelle, dont disposent aussi bien les personnes privées que les personnes publiques. À partir du moment où on investit dans une base de données de façon suffisamment significative, eh bien, on a un droit, le droit d'interdire ou de limiter l'extraction des données contenu par cette base. C'est une extraction qui doit être là aussi importante, soit d'un point de vue qualitatif, soit d'un point de vue quantitatif. Eh bien, ce droit, qui est un droit de propriété intellectuelle, ce droit va être finalement neutralisé par cette disposition de la loi pour une république numérique s'agissant des bases de données publiques. Le pendant en matière de données privées, c'est l'article 30 qui vise cette fois-ci les productions scientifiques publiées. Alors nous sommes tous concernés par cela. Cet article 30 va faire le chemin inverse, va conduire au chemin inverse. On a un droit de propriété intellectuelle qui est cédé ou concédé à un éditeur qui donc détient des droits. Et cette fois-ci, la loi va finalement neutraliser ce droit entre les mains d'une personne privée qui est l'éditeur, en permettant aux chercheurs de publier en ligne sa recherche au bout d'un certain délai, vous le savez, qui varie en fonction des disciplines. Donc, c'est intéressant de voir que partant de données publiques d'un côté et de données privées de l'autre, eh bien, on arrive à un objectif finalement commun, c'est l'accès aux données. L'accès aux données publiques au mépris d'un droit privatif et l'accès public à des données privées également au mépris d'un droit privatif. Un objectif commun, ces deux dispositions qui sont justifiées, qu'on peut justifier de manière aussi commune, puisque ce qui est avancé, c'est que la production de ces données, ou la collecte de ces données, ou la constitution de cet ensemble, est financée par des données publiques. Donc il paraît raisonnable de considérer que le contribuable ait accès à ces données. Et cette justification, on le retrouve dans la politique de l'open data, où là, c'est un mouvement mondial qui, pour des raisons démocratiques qui ont été évoquées plus tôt, et puis après pour des raisons aussi économiques, eh bien, va conduire à favoriser l'accès et la circulation des données publiques. Eh bien, cette logique-là, dans la loi pour une République numérique, finalement, est prolongée dans le secteur privé. Ensuite, on peut relever des points communs au niveau du régime, puisque ces deux dispositions de la loi pour une République numérique visent la diffusion en ligne. Il s'agit de bases de données en ligne, il s'agit de publications en ligne. On voit bien que là, il y a la volonté finalement d'utiliser les moyens de communication numériques et mis un peu de côté tout ce qui ne relève pas finalement de cette diffusion en ligne. Et le deuxième point commun quant au régime, c'est l'accès gratuit. Dans les deux cas, l'accès à la base de données doit être gratuit et l'accès à la production scientifique doit être gratuit. S'agissant à présent du second exemple, il s'agit de la portabilité des données. Alors, la portabilité des données, c'est un droit qui a été reconnu d'abord pour les données personnelles et notamment consacrées dans le règlement général des données à caractère personnel. C'est l'article 20 du texte qui prévoit que les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant, qu'elles ont fourni un responsable du traitement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable de traitement sans que le responsable de traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle. Je suis désolée pour cette lecture, j'aurais pas dû me lancer de cet article 20. En résumé, l'idée, c'est de permettre aux personnes concernées par les données qui ont été collectées de les récupérer et éventuellement soit de les conserver elles-mêmes, soit de se tourner vers un autre prestataire afin que ce prestataire les héberge. Donc, il s'agit de permettre aux individus de gérer leurs données de ce qu'on a appelé le nom m'échappe, mais c'est l'autonomie numérique finalement des individus. Et l'autonomie informationnelle, c'est aussi l'expression consacrée. Donc, dans ce secteur où on a affaire à une donnée qui, en principe, ne fait pas l'objet de propriété, il s'agit d'une donnée personnel, donc attaché à la personne, eh bien, en ce domaine, il a paru sensé, finalement, que les personnes ne se trouvent pas privées des données qui sont récoltées sur leur personne. S'agissant des données publiques, le régime est beaucoup plus franc, puisqu'il s'agit ici de permettre le libre accès et la réutilisation des données. Donc, on n'a pas besoin d'accorder un droit à la portabilité. Ici, tout à chacun peut avoir accès à ces données. La question s'est alors posée de savoir si on pouvait prévoir un tel accès, une telle circulation des données s'agissant de données qui n'étaient ni publiques ni à caractère personnel. Là, plusieurs arguments ont conduit en ce sens. Tout d'abord, la loi pour une République numérique visait le droit à la récupération, au profit des consommateurs, et on faisait valoir que finalement les petites entreprises, les petites institutions étaient aussi démunies que le consommateur à avoir accès aux données qui avaient été recueillies sur elles. Et donc il n'était pas totalement déraisonnable que de tendre le droit, au-delà des données à caractère personnel au profit des petites structures. L'autre argument était de dire que cela convergeait avec les objectifs de la Commission européenne, qui était de faire émerger un environnement de la donnée ouverte. Et donc, pour permettre que cet environnement se constitue, eh bien, il fallait favoriser absolument la concurrence et donc favoriser la portabilité des données. Ensuite, il était avancé que les données à caractère privé sont souvent mêlées aux données à caractère non personnel, et donc il est dans un ensemble indissociable, et donc si l'on voulait que le droit à la portabilité pour les données à caractère personnel soit effectif, eh bien il fallait l'étendre à toutes les données, qu'elles soient à caractère personnel ou pas, sinon eh bien il y aurait là trop d'obstacles à l'exercice au profit des personnes qui peuvent se prévaloir de ce droit s'agissant des données à caractère personnel. Donc vous voyez, il y avait toute une série d'arguments en ce sens, et pourtant, eh bien, cette proposition n'a pas été retenue. On a été adopté un règlement sur les données à caractère non personnel qui ne prévoit pas cela, et même il y a peut-être une marche arrière qui est engagée, puisque le décret qui vient d'être adopté s'agissant des données à caractère personnel abroge les dispositions de la loi pour une République numérique sur la portabilité des données. Pourquoi alors cette différence entre le traitement des données publiques et le traitement des données à caractère le traitement des données privées? Dans le traitement des données publiques, tout est favorisé pour permettre l'accès et la circulation. Il y a un principe de gratuité, il y a un principe de format ouvert, il y a un principe de non-exclusivité. Et ce principe de non-exclusivité, il est très intéressant parce qu'il pousse très loin l'effet du libre accès et de la libre circulation. Ce principe de non-exclusivité permet finalement à l'administration de jamais se dessaisir, en tout cas dans le principe, parce qu'il y a des exceptions, je ne rentrerai pas dans les détails, en tout cas à un principe de jamais se dessaisir de la possibilité d'avoir usage des données publiques, quand bien même elles seraient utilisées par le privé, ce qui permet à l'administration et ce qui oblige l'administration à rendre toujours accessibles ces données aux tiers qui ne les auraient pas encore exploités. Donc on voit qu'il y a un mouvement vraiment dans le sens de la circulation en matière de données publiques, alors que l'on constate des obstacles matériels et juridiques s'agissant des données privées. Alors les obstacles matériels et juridiques, je crois qu'il me reste 4 minutes, et c'est bien parce que je conclue bientôt. S'agissant des données publiques, pourquoi ces obstacles matériels et juridiques? Eh bien, les raisons sont différentes selon qu'il s'agit de données à caractère personnel ou pas. S'agissant des données à caractère personnel, les obstacles, finalement, à la circulation des données ont pour objectif de protéger l'individu. Et donc, on va restreindre la possibilité de communiquer les données personnel à des tiers et d'exporter hors du territoire européen ces données à caractère personnel. S'agissant maintenant des données privées qui n'ont pas un caractère personnel, l'obstacle tient à des questions économiques, c'est-à-dire qu'elles sont objets de propriété cette fois-ci, et donc dès lors qu'il y a la possibilité de se prévaloir d'un droit de propriété, eh bien, il y a la volonté de garder un monopole et une exclusivité sur l'usage de ces données. Donc comment on va créer des obstacles, notamment juridiques, eh bien, en reconnaissant des droits, par exemple des droits de propriété intellectuelle ou des droits qui sont proches de la propre, qui, on va étendre ces droits de propriété intellectuelle, c'est ce qu'on a fait avec les droits sui generis des producteurs de bases de données. Et puis, en dehors de la propriété intellectuelle, eh bien, d'autres régimes, finalement, vont se développer, tels que le secret des affaires ou encore la possibilité de se prévaloir d'actions contre des actes de parasitisme ou de concurrence déloyale qui vont empêcher les tiers d'accéder ou d'utiliser les données qui sont privés. Alors, je vais résumer cela en deux mots, et avec le risque de tomber dans la caricature. Quelle que soit finalement la qualification d'une donnée, son régime juridique vise à encadrer, nous l'avons vu, son accès et sa réutilisation. Et le choix politique aujourd'hui est de faire tomber, à mon sens, tous les obstacles à l'accès à la réutilisation quand il s'agit de données public. Et en revanche, je dirais que la tendance politique aujourd'hui est de restreindre l'accès aux données privées, même si on parle de libre circulation des données. C'est libre circulation des données selon une logique marchande. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde en profite. On va permettre la libre circulation pour mieux finalement exploiter ces données. Alors, ça, c'est la justification patrimoniale de ces obstacles. Puis après, on va justifier cela par des intérêts extra-patrimoniaux, et cela vise le régime des données à caractère personnel. Je vous remercie.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Allez, je t'en prie.
Ouais, c'était pas une question, plutôt une remarque, pas forcément adressée à madame, mais voilà, une remarque personnelle à partager, on va dire. Parce qu'on voit bien ici, dans cette présentation, comment finalement données publiques, données privées, on fait pas trop de différence a priori, et puis finalement, on en arrive quand même à établir des régimes distincts. Et quand on étudie le RGPD et qu'on s'interroge cette fois-ci sur les détenteurs de ces données, on s'aperçoit que là aussi, il y a une volonté d'établir un régime unique, puisque que le détenteur soit une institution publique ou une institution privée, il est soumis aux mêmes obligations, mais que les conséquences sont radicalement différentes, en fait, dans la faisabilité et la mise en œuvre. Pour avoir travaillé un petit peu sur le sujet, on s'aperçoit que ce RGPD, il a été conçu finalement dans l'idée que les principaux détenteurs de ces données, ce sont les grosses entreprises qui détiennent des données personnelles considérables et sources de croissance économique et de potentiel. Hein, c'est vraiment la volonté de la Commission. Mais que les autorités publiques, les administrations, comme ça a été présenté tout à l'heure dans votre propos, puisqu'elles sont aussi dans une logique d'administration numérique, détiennent elles aussi des données personnelles. Elles sont soumises aux mêmes obligations, mais pour les mettre en œuvre, ça pose des difficultés considérables. Et voilà, je sais que du point de vue des collectivités locales, elles ont énormément de difficultés à se mettre en conformité avec les obligations du RGPD, parce qu'en fait, il n'a pas du tout été pensé pour que ce soit les détenteurs publics de données privées ou personnelles qui soient soumis à ce type d'obligation. Donc on voit bien là aussi que la distinction public-privé, qu'on a essayé d'abolir, mais en réalité, dans la mise en œuvre, elle réapparaît parce que les moyens ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, c'était juste une remarque.
Je suis tout à fait d'accord. Et finalement, effectivement, il y a des données qui sont à la fois des données publiques et des données à caractère personnel. Et quand on relève qu'il y a deux logiques différentes et même deux injonctions différentes, puisque d'un côté, l'injonction est d'ouvrir et de l'autre, c'est pas une injonction, mais enfin, c'est une injonction de protéger. Eh bien, c'est pour les administrations mission quasi impossible.
Non, je voudrais juste ajouter et compléter ce qui a été dit. Finalement, on peut se demander si on raisonne sur les RGPD, on constate que la réglementation qui est mise en place, elle est destinée avant tout au secteur privé. Elle a été conçue pour le secteur privé, pour les grosses entreprises, comme tu l'as dit, Sophie. Et en réalité, on a l'impression parfois que les contraintes réglementaires, législatives qui sont mises en place, elles sont destinées au secteur privé avant tout et n'ont pas été conçues par rapport aux intérêts publics et par rapport au secteur public. C'est vraiment flagrant avec le RGPD, je trouve, et c'est flagrant à travers la logique dérogatoire qui est prévue dans le RGPD à l'égard des données détenues par les personnes publiques. C'est valable aussi pour la directive que vous avez évoquée sur le secteur, enfin tout ce qui concerne la sécurité publique, les intérêts liés à la défense, etc. Alors là, on est sur une logique complètement dérogatoire. Et donc, on a l'impression, par rapport à cette frontière publique-privée, que par rapport aux données, en tout cas, il y a une logique coercitive extrêmement forte et des contraintes réglementaires extrêmement fortes pour le secteur privé qui ne concernent absolument pas le secteur public. Donc là, il y a quand même une distinction, une différenciation très forte qui est proposée.
D'autres questions. Moi, je me posais une question. Est-ce que la loi sur la République numérique, on peut l'analyser comme étant une hypothèse de réinstitutionnalisation de pratiques qui se déploient un peu de droite et de gauche. Et cette question, parce que le triptyque que vous avez énoncé, accès, réutilisation, circulation. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la culture des hackers, c'est-à-dire la contre-culture, etc., etc., ces trois mots-là, c'est le triptyque de base de l'open source, de tout le mouvement de l'open source, Talman, machin, et qui va derrière amener l'open data, qui va derrière une espèce d'articulation avec l'open government de tout à l'heure. Et donc, vous qui êtes juriste, je me disais, dans le mouvement de l'open source, il y a un juriste qui arrive, s'appelle Laurence Lessig, avec précisément la question du copyleft, l'idée que toute production est collective, etc. Et comment est-ce que, alors, parce que j'y connais rien, enfin, en droit, hein, est-ce que là, on peut pas parler aussi d'un nouveau régime juridique qui vient télescoper celui-ci ou est-ce qu'il y a des tensions extrêmement fortes avec cette question de l'origine open source? Je ne sais pas si c'est clair la question.
Si, c'est clair, ça. Mais la réponse ne sera pas forcément claire parce que c'est complexe. Le mouvement le mouvement du libre, c'est une réaction initialement à la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, bon, OK, on a un monopole. Il a été classiquement, d'un point de vue classique, on va actionner ce monopole et gérer l'accès de façon limitée pour que ça soit le plus rentable possible. Et de l'autre, et le mouvement du libre dit, bon, ben, ce monopole, je le renverse. Et finalement, puisque je peux interdire, je peux aussi autoriser. Je vais autoriser quiconque à avoir accès et réutiliser mes créations. Et donc, on a effectivement de la création collaborative, collective, etc. Et ce mouvement du libre... Je suis tout à fait d'accord, vient inspirer finalement l'open data. On est dans la même logique. Alors, après, ce qui est proposé ensuite, finalement d'aller plus loin, c'est-à-dire jusqu'à présent, le mouvement du libre dit nous, on utilise les règles et on va les utiliser de façon originale. Laurence Lessig dit on abolit la règle et on pose la mienne. Ça. Alors, moi, sa proposition n'a pas forcément été tout à fait comprise. En tout cas, je pense que les institutions publiques, on a le ministère de la Culture qui avait applaudi des deux mains. Je ne suis pas certaine qu'elle ait tout à fait saisi les incidences de la proposition de Lessig. Mais voilà, c'est le secteur privé qui prend le lead sur la régulation. Alors que la loi pour une république numérique, c'est une loi hautement symbolique qui effectivement signifie que l'État veut être le régulateur de ce secteur.
Si je peux juste ajouter quelque chose là-dessus, je pense que ça rejoint aussi les questions qu'on se posait ce matin. Donc les SIC, c'est quand même les Creative Commons, donc c'est aussi est-ce que les communs qui sont définis ne sont pas des communs publics. Enfin, c'est aussi la différence entre... C'est un outil de droit privé, enfin, une licence qui ne suppose pas du tout des garanties ou en tout cas une gestion par l'administration publique pour ce type d'œuvre.